Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, l'épisode 29 qui va parler de Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan. Ou Xavier Dolan, ça dépend d'où vous venez au Québec, avec entre autres Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, en fait je vais tous les faire parce qu'ils sont pas beaucoup, Léa Seydoux, Vincent Cassel et Marion Cotillard, donc voilà, autant tous les citer parce qu'ils sont très bons dans ce film. Le pitch, je vais vous le lire, ça va être assez simple. Après 12 ans d'absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille une nouvelle importante. C'est tiré d'une pièce de théâtre, on a pu largement en parler, donc je crois que je ne vais rien rajouter de spécial dans cette intro, à part que j'étais accompagné d'Alice et de Arnaud pour parler de ce film, qu'on avait vu plus ou moins dans la même semaine. Et vous rappelez que vous pouvez vous abonner et à la page Facebook, mais aussi au podcast lui-même sur iTunes, l'Instagram, le Twitter, et nous laisser des petits commentaires et des étoiles sur le podcast store sur iTunes. J'en profite pour envoyer un petit big up à Oda Menta, hein, qui suit le podcast et qui nous suit également sur Instagram et qui a écrit un super commentaire sur iTunes. Donc voilà, merci de nous suivre depuis le Japon, hein, bisous. D'ailleurs, n'hésitez pas à glisser dans vos commentaires iTunes, pourquoi pas un titre d'un film que vous voudriez qu'on critique, même si c'est un vieux film, etc. Ce sera les special requests du public. Sur la chaîne YouTube de fin de séance, vous pouvez voir nos têtes parler, également une intro différente de celle-ci, puisque là je suis affalé sur mon siège devant mon ordinateur, or j'essaie de me bouger un petit peu pour faire des intros soi-disant drôles. Je vous préviens également pour cet épisode de Juste la fin du monde, je suis vraiment vraiment désolé, mais on a eu des problèmes techniques qui ont fait que ma piste est un petit peu dégueulasse. Ça ressemble à la piste audio d'un journaliste au milieu de la forêt colombienne avec les FARC. Donc voilà, j'ai essayé de nettoyer ça au maximum en espérant que ça ne gêne pas trop votre écoute. Ça va vous faire un petit peu partir dans la jungle. C'est sympa. Bon, allez, bisous à tous.
Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Il fermerait les yeux sur les erreurs. Ou il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
J'ai commencé par un truc de new ciné et j'ai peiné à chercher des choses intéressantes. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de nouvelles bandes-annonces intéressantes.
Nous, on a du croustillant.
Ah, quoi ?
Nous, on a du croustillant. On a réussi à coupler nos infos tous les deux et on a une petite anecdote, tout ça. Je pense qu'on est bon aujourd'hui.
Faites-moi plaisir, parce que moi, à part l'Instagram de Rock pour le film de Jumanji, il n'y a rien de spécial, tu vois.
Ce qui est pas mal, déjà.
C'est déjà bien, hein.
Non, mais en fait, déjà, je voulais juste commencer. On en avait un petit peu parlé la semaine dernière sur le fait que Verhoeven était dans la shortlist pour représenter la France aux Oscars. Maintenant, c'est confirmé, c'est bien Verhoeven qui va représenter la France aux Oscars. Je voulais en profiter un peu pour parler du processus de sélection des films étrangers aux Oscars, qui est un peu particulier puisque c'est chaque pays envoie un représentant, ce qui fait que généralement c'est pas forcément les films les plus intéressants, Ça va être les films les plus politiquement corrects, les plus... Ouais. C'est extrêmement rare. Il y a 2 ans, j'ai été étonné parce que la Russie avait envoyé le film Léviathan de Zviagintsev, qui est le film anti-système par excellence.
Parfois, sur un malentendu, ça marche.
Tu sais pas... Tu sais pas pourquoi. Surtout que c'est de notoriété publique que le genre de centre national de la cinématographie russe est corrompu jusqu'à la moelle.
Oui.
Donc je sais pas comment il est passé. Il y a eu un malentendu. C'était peut-être le film qu'il fallait surtout pas envoyer. Et par erreur, ils ont envoyé celui-là.
Peut-être
celui-là
où il y avait une épidémie de grippe aviaire dans le comité ce jour-là. Je sais pas.
Mais en tout cas,
c'était le neveu du président du comité. C'est très possible.
Ou alors ils n'ont pas vu le film, mais le producteur a fait du bon travail en mettant un mauvais résumé. Du coup, ils ont réussi.
Mais en tout cas, ce processus de sélection fait que très très souvent, en fait, c'est quand tu regardes la liste des films nommés au meilleur film en langue étrangère, t'as l'impression que c'est une liste de films pour ne pas donner envie aux Américains de voir des films qui ne sont pas américains, en fait. C'est vraiment des films souvent assez insipides, des films de prof de langue un peu, quoi.
Exactement, c'est le film qu'on va nous montrer quand le prof a pas préparé son cours. Voilà, c'est généralement ça se résume à ça.
Et donc là, c'est bien qu'on envoie, parce que c'est vrai que ces dernières années, on envoyait des trucs genre Renoir.
Oui, on aurait pu avoir Ces années, moi.
On aurait pu avoir Ces années, moi, cette année.
Oui.
Ouais, des choses assez consensuelles comme Intouchable, etc. Ouais.
On avait envoyé Intouchable, et c'est vrai je suis content qu'on envoie un film aussi décapant que elle, quoi.
Et d'ailleurs, voilà, et c'est là où je voulais rebondir, c'est que je voulais rappeler que l'année 95-96, là, le film qui a été envoyé par les Français, c'est Gazon maudit. Et cette année-là, en face, il faut se rappeler qu'il y avait La Haine. Et en fait, j'ai su, grâce à quelques personnes, le pourquoi du comment, c'est que même en fait au niveau de la France, le comité qui organise la sélection des films, en fait, il faut faire campagne, parce que les Oscars sont très connus pour faire, il faut faire une campagne pour avoir un Oscar. Et donc nous, à l'époque, donc le producteur du film pense qu'en France, ce n'est pas le cas. Le bon sens dit que ça va être La Haine. Il se foule pas trop. Il envoie. Il est quasiment sûr que c'est dans la poche. Il a pour marraine Jodie Foster, donc doublement dans la poche. Et Jodie lui dit mais faut quand même un peu, travailler. Avec qui je dois déjeuner? Je dois faire un peu des coups de fil. Il fait mais non, ici on est en France. Ce n'est pas comme aux États-Unis, hein, on envoie les bons films, cinéma d'auteur, tout ça. Et ben, résultat, c'est Gaston Maudit qui a été pris. Voilà, donc j'ai envie de dire un appel aux producteurs français cette année. Voilà, faites du lobbying.
Ouais, comme quoi, ouais, c'est vraiment de la politique. Et du coup, qui s'en est occupé là pour elle?
Aucune idée, ça je sais pas.
C'est un film
tout.
Français parce que les fonds sont français, parce qu'au final le réalisateur ne l'est pas, etc. Mais
oui, c'est assez bizarre parce que souvent il y a une course, notamment au niveau des films français, parce qu'en France on est connu pour produire des films un peu de toute nationalité et surtout pour attirer des réalisateurs pour venir tourner chez nous en langue française. Et quand ça arrive, généralement il y a une course avec d'autres pays pour savoir qui va représenter quel film. Par exemple, l'année de Amour, qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger de Haneke, il a représenté l'Autriche parce que les Autrichiens, je crois, au mois de juillet, ont réservé le film, tu vois, pour pas que la France le leur prenne.
Mais d'ailleurs, même là, le
Canada, il y a un mois, avait déjà annoncé que Xavier Dolan allait les représenter parce qu'il voulait pas que la France le leur prenne.
C'est genre l'Eurovision, c'est sur la main, lui. C'est nous.
Trop tard, Prince.
C'est comme ça, il n'y a pas une histoire de... Je me souviens qu'il y avait, tu sais, quand Jean-Pierre Jeunet avait fait un long dimanche de fiançailles, il y avait une histoire de pourcentage de fonds de production dans le film pour dire ce film est américain.
Mais ça c'est différent, c'est parce que en fait il y a eu des procès vis-à-vis de ça. Je connais pas l'histoire en détail, mais c'est effectivement c'est pour que le film soit français. Normalement en fait on peut pas vraiment, les Français, les coproductions américaines ça marche pas très bien. En fait on fait tout, le système est basé justement pour pas, donc voilà, pour contrer justement le film américain. Je rappelle que 25%, quoi, on récupère parfois énormément de recettes. En fait, tous les films, même américains, on récupère des recettes et c'est reversé au CNC. Et donc,
il y a une taxe sur les billets de cinéma
qui finance
le cinéma français.
Voilà, donc c'est plutôt sympa. Mais donc, à Long Dimanche de fiançailles, c'était ils ont truqué. Je sais plus quel studio.
C'était Warner Bros qui avait
réussi en faisant une filiale en France. Fait croire que le film était français pour choper des fonds français, et donc c'est un peu plus compliqué que
ça,
quoi.
Ah d'accord.
Voilà.
Ah oui, en fait, il y avait en plus de la magouille, en plus.
Voilà.
Du coup, je pense qu'on peut directement passer au film.
Ouais.
Je l'ai vu, vous l'avez vu cette semaine, vous?
Oui.
Et alors, moi, je l'avais vu il y a 2 semaines, mais je l'ai revu ce matin pour que ce soit un petit peu frais.
T'as du courage, parce que... Alors, moi, j'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu à 13h. Je vais pas vous cacher, je vais pas faire le bonhomme, mais il y a eu 2 scènes dans ce film où j'ai jamais autant pleuré au cinéma.
Waouh. Moi, je crois en deviner une, et j'ai...
Oui,
je pense qu'il y en a une qui est
évidente. Tu te poses la question sur la seconde.
Ouais, ouais, mais moi, j'en ai une seconde, mais après, je sais pas si ça sera le même cas que...
Si c'est le même pour tout le monde. Je sais pas, on va peut-être pas... On va attendre peut-être
oui, bien sûr.
Spoiler pour vraiment détailler certaines scènes. On va peut-être parler du film, du contexte en général, et du cinéma de Xavier Dolan pour l'instant. Alors, c'est pas parce que j'ai eu de fortes émotions non plus que j'adore ce film. Je le trouve assez inégal, en fait. Pour moi, il commençait peut-être un peu trop comme quelqu'un qui voulait pas faire du théâtre filmé, parce qu'il se trouve que ce film est tiré d'une pièce de théâtre. Et l'une des premières grosses conversations entre les personnages, au son, ça sonne très très théâtral. Et il nous offre des gros plans à chaque fois sur les personnages. Je comprends que c'est un choix artistique. J'ai pas adhéré. J'ai trouvé ça me sortait un peu du film, en fait. Je voyais le réalisateur en train de vouloir filmer comme ça au lieu de me dire rentre dans le film. Et donc ça m'embêtait. J'avais un peu peur que du coup tout le film soit un peu bizarre comme ça. Mais après il arrive à retourner dans parfois son esthétique qu'on connaît bien et qui marche très très bien, notamment sur les scènes les plus émouvantes. Après, j'ai trouvé les acteurs très bons. Pour moi, je mettrais peut-être un peu plus d'applaudissements pour Nathalie Baye et Vincent Cassel, parce que je trouve que leur travail est vraiment excellent dans ce film, vraiment. Au début, je pensais même que Gaspard Ulliat, il était là juste pour montrer juste son visage. Hein, c'était ma blague en général, c'est ce qu'il n'a pas fait lui aussi, la Steven Seagal School of Arts, tu vois, parce que sa tête. Mais en fait, non, c'est plus nuancé, il est plutôt très bon après.
Surtout qu'il y a quelque chose quand même de. Moi, j'ai bien aimé quand même Gaspard Ulliat dans le film, mais il y a quelque chose d'un petit peu dommage, c'est qu'en fait, en vrai, il aurait dû attendre 5-6 ans pour faire ce film et il aurait dû le jouer, ce rôle. Dolan.
Ah, tu veux dire lui. Ah, oui.
C'était un rôle pour lui en vrai. Point, quoi.
Je me suis posé la question, effectivement. Moi, je me suis posé la question aussi pourquoi il n'avait pas joué ce rôle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, moi, qu'il réunit énormément cet énorme casting. En fait, c'est un film où j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de protagoniste. On nous annonce ce garçon qui rentre, mais en fait, chaque personnage est une porte d'entrée dans l'histoire.
Oui, et je lui, pense c'est presque un témoin, en
exactement,
fait.
Exactement, et je pense que pour chaque spectateur, je suis sûre que si on demande, il y en a qui vont dire le personnage fort, c'est la mère, voilà, ça va être Antoine, le frère. On peut très très bien aussi rentrer avec le personnage de Marion Cotillard, qui est un personnage dont moi j'aime beaucoup beaucoup l'évolution, ou même de la petite sœur. Donc je pense que c'est pour ça aussi souvent on dit c'est un gros casting, c'est un peu lourd. Moi je trouvais ça très judicieux justement de prendre autant de têtes d'affiche réunies, déjà parce qu'il arrive très très bien à les équilibrer. Je pense qu'il fallait quelqu'un comme lui pour réussir à équilibrer ce casting là et
savoir les manager.
Oui, et je trouve le fait d'avoir pris Huel finalement qui est le moins connu, tout ça, ça mettait vraiment en avant ce choix là en fait d'amour peut-être toute cette famille, en fait, de créer vraiment une famille, quoi, un truc, ça marche très bien comme bloc. Et je pense que si lui avait joué,
ouais,
je pense qu'il y aurait eu un truc beaucoup trop fort sur Xavier Dolan, il aurait écrasé lui tout seul tout cet énorme casting en fait.
Oui, ce qui est à l'encontre de ce qui est très intéressant dans le film, c'est d'avoir au final le personnage observateur qui est très doux, très bon aussi. D'ailleurs, même on lui reproche à ce personnage d'être la bonté incarnée. Et par rapport aux autres persos qui sont plus grands que nature et qui ouvrent toujours leur gueule.
Ce qui d'ailleurs, on
de Marion Cotillard.
On y reviendra.
Très intéressant dans son hésitation, etc.
Oui, on y reviendra sans doute dans la partie spoiler, mais en fait cette gentillesse du personnage, c'est une fausse gentillesse,
c'est vraiment un égoïsme,
c'est vraiment une gentillesse de façade, quoi. Ouais.
Ouais. On en parlera effectivement, c'est vrai qu'il y a une scène qui souligne ça très bien et c'est fou et c'est qui nous le souligne le spectateur parce qu'en fait on ne sait pas comment ni pourquoi ce personnage est aussi gentil et avoir cet éclairage là dans le film on se rend compte que ah oui, chacun a ses torts en fait, chacun a ses défauts. Qu'est-ce que je peux dire? Bah dites-moi oui, quels furent vos acteurs préférés, qu'est-ce que vous avez aimé également dans l'esthétique de ce film. Encore une fois, c'était étrange d'avoir ce jeu pour moi de la photo qui parfois pouvait changer, qui parfois ça servait bien le tout et parfois, et spécialement au début, je trouvais ça un peu, je sais pas, j'avais l'impression, je sais pas si ça a été tourné dans l'ordre chronologique, je veux dire n'importe quoi, mais j'avais l'impression qu'au début il cherchait comment il voulait faire ce film et ensuite j'ai compris où il voulait.
Je crois que ça c'est plus une question d'habitude ou quand il y a un procédé de mise en scène comme ça un peu fort, il faut toujours un moment pour s'adapter. Je pense au film Dogville par exemple de Lars von Trier où il y a une absence totale de décor. Il faut bien 20 minutes pour entrer dans le procédé avant de pouvoir accepter.
Non mais justement, à la limite j'aurais compris si le procédé était le même tout le temps, mais bon, j'ai trouvé moi que par contre le procédé qu'il avait utilisé au début du film, ben, en fait il l'a un peu laissé. De côté pour finalement adopter une autre façon de faire. Non, moi en tout cas, je me suis totalement habitué après. Donc je sais pas, ou alors c'est
après,
que
quelque
ma
chose qui est très important dans le film. Donc, c'est un
une dichotomie, mais je sais pas.
Après, effectivement, donc, ce qu'on remarque en premier dans le film, c'est le cadrage. Donc des cadrages, voilà, on le dira pas assez, mais c'est que des gros plans quasiment. Quoi. C'est à part effectivement.
Je pense à 95%.
95%, à part quoi. Quand il y a du groupe, il y a très peu de moments où ils sont tous ensemble. D'ailleurs, quand il y a eu que 6 jours de tournage avec tous les comédiens ensemble. Hein, donc ça prouve que il y a très peu de scènes de groupe finalement. Tout est très découpé.
Ouais.
Et en fait, ce qui est surtout, c'est il faut parler du son. Quoi. C'est un grand film sur le son. Quoi, c'est vraiment un film aussi au niveau du son qui non seulement on est en gros plan au niveau de Cannes, on est en gros plan et il y a un mixage très très particulier du film, c'est-à-dire que normalement la musique est en fond, on va jamais mixer la musique à la même hauteur que les dialogues, etc. Là, ouais. Tout est rempli, hein, les gens parlent ensemble, se coupent la parole, on a de la musique en même temps, pas du tout une musique qui vient appuyer des sentiments, les relever, on a une musique qui est parfois très mélodramatique sur juste une scène de dispute, et au même niveau, donc on étouffe. Et c'est vrai que les 5-10 premières minutes, il faut beaucoup de temps pour s'habituer et apprendre, ouais. Nous, à faire les faire d'écouter celui qu'on veut écouter, c'est presque le spectateur qui va aller choisir s'il va écouter Antoine, parce qu'ils crient tous, de toute manière. Et il y a de la musique en plus, et il y a ces gros plans, donc moi, il m'a fallu 10 bonnes minutes avant de m'habituer à ça, quand même.
Oui, parce que...
Alors, comme d'habitude, tu...
Après, surtout, il y a quelque chose, en fait, c'est dès le début, il y a un moment comme ça un peu étrange où il parle avec sa belle-sœur qu'il rencontre pour la première fois. Et en fait, les deux personnages vont tout d'un coup se couper du reste du groupe, ne plus écouter ce que disent les autres, et ils se regardent pendant une bonne minute tous les deux. Ouais. Et on sent qu'il y a quelque chose qui commence à se passer. C'est un peu un procédé qui va réitérer comme ça pendant tout le film. Mais je crois qu'au contraire, en fait, au moment où il essaie d'éteindre les autres conversations, il y a quelque chose de très directif en fait dans la mise en scène de Dolan, même dans sa manière de faire des gros plans. Et d'avoir une profondeur de champ qui est très très réduite, ça c'est qui est une habitude chez lui. Il y a une manière comme ça où j'ai l'impression que quand il montre un plan, il y a une chose à voir et il veut absolument qu'on voit cette chose-là. C'est-à-dire il y a vraiment il y a un plan dont j'aimerais reparler, mais c'est dans la partie spoiler, c'est à la fin aussi que je trouve assez bouleversant sur la mise au point, où il y a la mise au point sur la main de Vincent Cassel, et il y a quelque chose il y a quelque chose d'assez beau sur le personnage qui éclate à ce moment-là. Et il a toujours cette manière, que ce soit au son ou à l'image, comme ça, de diriger le spectateur, en fait, sur un élément. C'est juste un truc de dire, là, les gens parlent, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment se regardent ces deux personnages. Et c'est ce que fait, c'est ce que montre.
Je suis assez d'accord et je voudrais revenir sur un mot que tu as utilisé très justement, Alice, qui est étouffé. Et c'est vrai qu'on se sent étouffé très rapidement dans le film et c'est ça qu'il veut, je pense, aussi. Il veut plonger le spectateur dans cette espèce de cacophonie où rentre justement le personnage de Gaspard Huliel qui. Tu sais, dans les deux premières minutes, passe un voyage parfait, tu vois. Il est dans le silence, enfin, dans un silence quasi complet, que ce soit dans son avion, dans son taxi, il est tranquille, Il est plongé dans ces gens qui parlent chacun plus fort que l'autre. Dans tout de suite, voilà, effectivement, ces gros plans, on est tout de suite mis dans quelque chose où on veut prendre un petit peu d'air. C'est-à-dire qu'on est avec lui quand il décide de s'isoler, que ce soit dans sa vieille chambre ou que ce soit un moment quand il dit je veux bien venir avec toi en voiture, on se dit ah ouais, s'il te plaît, va un petit peu à l'extérieur parce que.
D'ailleurs, c'est les moments où le film s'éloigne de la pièce, hein, d'ailleurs. Il me semble, quoi, vous m'arrêtez si je me trompe, mais dans la pièce, ils ne vont pas voir la maison. Quoi, ils sortent pas de la maison.
Non, non, c'est-à-dire, il voulait. Il avait pour projet d'aller voir la maison de son enfance, mais Antoine refuse qu'il y aille, et résultat, il reste dans.
Oui, mais il y a quand même la scène de voiture où ils sortent de la maison dans le film.
Ouais.
Oui, pour aller acheter des cigarettes, ouais.
Pour acheter des clopes.
Ils arrivent quand même. Quoi, il dévie à ce moment-là, quoi, dans cette partie de ce moment-là, il dévie un peu de la pièce, hein, il dévie un tout petit peu de la structure.
Mais on est toujours enfermé dans un habitacle, quoi.
Oui, oui, voilà, c'est ce que j'allais
mais
dire.
Mais il avance.
Ça reste quand
mais
même une scène en huis clos, oui. Ouais, on avance, ouais.
On avance.
Oui, oui, on avance. En tout cas, pour le spectateur, dans sa connaissance des personnages et du protagoniste, on avance, en tout cas. Quoi d'autre dans tout.
Ah oui,
est-ce que vous l'avez aimé déjà?
Ah moi oui moi j'ai aimé il faut que maintenant si je dois chercher à développer pourquoi j'ai plus aimé qu'autre chose, je pense que ce qui m'a beaucoup plu c'est que très vite il m'a fait oublier, moi c'est une pièce que j'avais lue qui m'avait énormément marquée et qui était très forte et j'étais très enthousiaste à l'idée que ce soit lui qui l'adapte parce que je savais qu'il allait massacré quoi, qu'il allait très vite oublier et se l'approprier. Et c'est-à-dire que j'aimais parce qu'il change il a quasiment changé le sujet de la pièce tout en respectant énormément aussi, c'est-à-dire que pour moi c'est plus l'histoire de quelqu'un qui vient annoncer sa mort, ce qui est le cas de l'auteur de la pièce quand même de la gare, c'est annoncé tout de suite. D'ailleurs, il l'évacue très vite Xavier dans la première scène du film, donc il dit voilà, je viens annoncer la mort à ma famille. Et puis d'un coup, moi je trouve que le film Xavier Dolan nous raconte quelque chose de très intime sur lui et sur un moment de sa vie. C'est sur le moment de sa vie où de sa place lui d'auteur, de son regard qui est radicalement différent des autres, et de sa difficulté à parler à des gens aussi qu'il aime. Quoi, il y a c'est un film qui est très court par rapport aux films de Dolan, et j'ai l'impression qu'il avait presque besoin de parler de ça avant de continuer à faire d'autres films. On dirait quelque chose de très très sensible dans sa manière de nous parler de son travail à lui, en fait, dedans.
Oui, mais il y a quelque chose que j'aime énormément, d'ailleurs, à ce propos, c'est la manière dont, en fait, le personnage envers lequel il est le moins tendre, finalement, c'est le personnage principal.
Exactement.
Quoi. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui filme de cette famille qui, finalement, dans cette famille, on ressent beaucoup de honte à être pauvre, en fait, à être plus pauvre que lui, à avoir moins de culture, et ça revient beaucoup.
Avoir moins d'horizon que lui.
Il y a une scène comme ça qui est assez belle dans la cuisine, où il y a une musique pourrie qui se lance à la radio, et il y a Nathalie Baye qui dit à sa fille, viens, on va lui montrer la chorégraphie qu'on a fait à l'aérobic sur cette musique. Ouais. Et la sœur, elle a honte de montrer ça à son frère, quoi. Et elle lui dit, non, je vais pas le faire, maman, fous-moi la paix. Et elles finissent finalement par danser sur sur ce truc, et ils le montrent pas comme quelque chose de ridicule.
Ouais, l'évasion du protagoniste, l'évasion du prolétariat, en fait, parce qu'il est devenu quelqu'un, d'ailleurs sa mère lui rappelle, lui souligne, tu sais, on peut être l'homme de famille sans être forcément le père, etc. Tu sais, il y a une sorte de responsabilité qui devrait découler de tout simplement son intellect. Mm-hmm. Et c'est vrai que en plus dans sa façon d'être très gentil, ce personnage, on sent jamais ni du dédain ni de la condescendance, mais en fait on le voit que des yeux justement du reste de sa famille, comme si de fait, comme c'est un écrivain, il devrait les prendre pour des cons. Donc au final, c'est plus une honte de soi-même. Qu'autre chose.
Ouais, mais il y a quand même
le thème, et je pense effectivement quand tu disais qu'il en avait peut-être besoin Dolan de parler de ça, c'est vrai qu'on sent que c'est très personnel, parce que ce rapport que t'as avec ta propre famille, est-ce que tu en es parti, est-ce que quel lien tu gardes avec ta famille,
etc. Il y a beaucoup de nostalgie.
Et d'ailleurs j'ai pu en parler à plusieurs personnes qui ont vu ce film, et j'ai l'impression que ça ne va pas parler aux gens de la même manière. En fait, en fonction de leur façon de vivre, en fait, avec leur famille, ça peut paraître très très bête, mais je pense qu'il faut avoir, je sais pas, ou expérimenter certaines choses, ou alors, voilà, pour que ça résonne correctement en toi, en fait. Je pense. Ou en tout cas, son maximum.
Mais parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que tout le monde dans cette famille a quelque chose à lui reprocher, à Louis, quoi, au personnage principal, mais c'est jamais dit ouvertement, c'est toujours dit de manière enrobée par un compliment. Mais par exemple, ce que lui reproche finalement toute sa famille, c'est qu'à chaque fois qu'il écrit, tout ce qu'il envoie, c'est ce qu'ils appellent une carte elliptique. Et on voit, et c'est vrai que tout ce qu'il envoie, c'est quelque chose genre bon anniversaire ou bon année.
C'est toujours en trois mots.
C'est qui tient en trois mots. Il le dit d'ailleurs. C'est en fait, tu nous écris jamais de lettres, tu nous écris que des cartes, comme si t'étais toujours en vacances.
Et elle dit pire, la sœur, elle dit, tu écris des cartes comme si le facteur peut les lire, quoi. Il n'y a même pas une enveloppe.
Il n'y a même pas une enveloppe.
Il y a plus d'un, tu considères même pas ça comme un geste intime, quoi. Donc c'est très dur quand même.
Et aussi, tu ressens en fait la position de la famille vis-à-vis de lui, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de l'enfant prodigue, parce que finalement, eux, notamment la sœur, elle est restée, c'est elle qui s'occupe de sa mère,
ouais,
hein,
ils
le disent clairement, hein. Elle la trimballe en voiture pour aller faire ses courses parce qu'elle ne conduit pas, etc., etc. Et malgré ça, c'est elle la mal aimée, quoi. C'est-à-dire que la mère, elle peut pas s'empêcher de plus aimer cet enfant qui est parti il y a 12 ans et qui est jamais revenu, que cette fille qui est restée avec elle depuis toujours, qui l'aide à la maison, qui fait des choses, et il y a quelque chose comme ça qui est pas dit dans le film, mais en fait, tout le monde en veut quelque part à Louis d'être l'enfant le plus aimé aussi, quoi.
Y a quelque chose d'étrange, je trouve, dans ce drame familial, c'est que, tu sais, on a l'habitude d'en voir, on en a vu beaucoup, et très souvent, mais justement, des personnages comme la mère, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à Un été à Osage County, ça devient un truc avec Meryl Streep, tu sais.
Ouais.
Et en fait, dans
adapté d'une pièce de théâtre aussi.
Ce genre de film, parce qu'en général, on a toujours un personnage un petit peu faux-folle ou déluré, ou des personnages qui peuvent dire des choses parfois méchantes aussi, parce que là, je pense au personnage de Vincent Cassel. Mais dans tous les autres films, c'est toujours teinté d'un sarcasme tel que c'est drôle, en fait, tu sais. Et que presque toi-même, en tant que spectateur, t'as hâte qu'ils ouvrent leur gueule pour défoncer quelqu'un, parce que tu vas rigoler. Et là, dans ce film, non. Et c'est ce qui change, je pense, de tous les drames familiaux comme ça que j'ai pu voir. C'est dans celui-là, en fait, ça te met mal à l'aise. Enfin, à chaque fois, c'est horrible, quoi. T'as juste envie que la personne se dise « Non, mais arrête, je respire, prends-moi. »
Ben non, mais c'est un film qui est très critique,
je sais pas,
envers
voir
le
petit
personnage.
Déjà, et ensuite, tu vois.
Ben, c'est parce que, contrairement aux autres films, aux films de genre, films de famille, puisque il y en a plein, on pourrait citer Un air de famille aussi en France, ou voilà, c'est quelque chose qui revient. Mais finalement, le personnage qui est le plus critiqué, et sur lequel on réfléchit le plus, en tout cas Xavier Dolan s'attarde le plus, c'est le personnage principal. Et je pense, est-ce qu'on peut parler de la scène avec le frère?
Dans la voiture,
où il démonte il fait donc ce que fait un auteur, un réalisateur, c'est-à-dire qu'il met en scène un souvenir, il raconte une petite anecdote du matin même, et son frère, il se laisse pas prendre piège à ça, et il lui dit maintenant tu vas arrêter de mettre en scène ça, et il le démonte pièce par pièce, en fait, son petit café, son machin, et moi j'entends, je vois le réalisateur qui nous dit je suis une imposture, presque, il y a presque un aveu de l'artiste et de l'imposture aussi qu'on peut être quand on se déclare artiste, et qu'en fait effectivement c'est une formidable manière de communiquer sans dire les choses essentielles, en fait. Et c'est pour ça que cette scène est très très belle, quoi.
Mais c'est marrant que tu dis ça, ouais, parce que du coup on peut pas s'empêcher de mettre en parallèle effectivement son art à lui et du coup une partie de lui-même qui lui dit non mais pourquoi mettre toutes ces fioritures autour d'un propos que peut-être à un moment tu veux amener, en fait, va directement vers les choses que tu as à dire ou ne le dis pas du tout. En fait, c'est et elle est très très bien cette scène parce que au début tu te dis le personnage du frère est fou, il est chiant, ce qu'il dit ne veut rien dire. Et dès qu'il commence à expliquer le pourquoi il se met en colère de cette petite anecdote absolument anodine de son frère, et là tu comprends qu'en fait c'est Vincent Cassel qui a raison, quoi. C'est Antoine qui a raison, et c'est assez génial. C'est vrai que cette scène-là est quand même assez folle parce qu'elle arrive à te faire comprendre quelque chose et à totalement changer ta vision de deux personnages, tu vois. C'est d'un côté de la voiture, et puis après tu fais, ah non, en fait je suis totalement avec Antoine sur ce coup.
Oui,
mais Arnaud, tu n'as pas dit si tu as aimé le film. Tu as tout de suite rebondi sur des analyses, mais tu n'as pas dit ça.
En fait, globalement, j'ai aimé le film. On va y revenir, mais j'ai quelques bémols, moi, à émettre. Et on va y revenir et surtout le mettre en rapport, en fait, je pense, aux autres films de Dolan. On le fera peut-être dans la partie spoiler, non, je sais pas, ça sera peut-être
un petit peu plus sa place.
Mais ici aussi sur les acteurs, c'est-à-dire je les trouve tous bons, mais moi de la même manière, en fait ma préférée c'est Nathalie Baye, de loin, parce qu'il y a quelque chose que j'aime énormément sur son personnage, c'est la manière dont elle montre différentes facettes, en fait. C'est-à-dire que au début tu la vois en représentation, et c'est vrai que enfin moi ça me rappelle des souvenirs de gens que je connais comme ça qui peuvent avoir une facette exubérante face aux invités. Quand on les accueille, tu vois, où on est en représentation, c'est la maîtresse de famille, elle est là pour accueillir. Et déjà, ça dit quelque chose du personnage, c'est-à-dire que quand il arrive 12 ans plus tard, elle l'accueille comme si c'était un invité, quoi. Avec cette obséquiosité, tu vois, cette manière de le faire et tout ça. Et ensuite, quand tu l'envoies, par contre, seul, petit à petit, ça va s'émailler, hein, tout au long du film. Et quand tu la vois seule à seule avec lui, tout d'un coup, c'est fini la représentation. Et on dirait qu'elle joue autre chose. Et qu'il y a quelque chose qui emprunte de beaucoup plus de mélancolie, de beaucoup plus de... Et il y a beaucoup de facettes comme ça. Il y a une scène aussi qui est très belle où, elle raconte apparemment, comme tous les dimanches, ses souvenirs des dimanches passés avec avec feu son mari. Et
l'histoire du dimanche,
c'est ça. Tout le monde en a marre qu'elle raconte toujours la même chose.
Tous les dimanches,
et là, pareil, de la même manière, elle est très consciente qu'elle le fait toujours, et elle analyse très bien pourquoi elle le fait. Et elle dit, oui, mais c'est ce que font les gens. On se remémore des choses et ça nous fait plaisir, ça nous rend heureux. Et si je le raconte, c'est pas pour vous. Si je le raconte, c'est pour moi, parce que j'aime me rappeler de ça. Et là, elle raconte ça, et il y a un moment terrible où elle raconte pourquoi ces dimanches se sont arrêtés. Et elle explique, ben là, mes deux fils sont partis, il y avait plus que ma fille, et bon, y allait toute seule avec elle, c'était plus la peine, quoi. Et à ce moment-là, il y a un plan sur le dos de sa fille, et tu comprends,
ouais,
et en fait, ça alimente tout ce que t'as eu depuis le début, c'est-à-dire cette pauvre fille qui aide sa mère, qui reste là depuis toujours, quoi.
Qui fantasme aussi.
Et là, je pense que c'était effectivement une très bonne scène, parce qu'il y a deux petites répliques, en fait, qui sont excellentes, juste après ce que Nathalie Baye dit. C'est Vincent Cassel qui dit en premier... Et voilà, c'est ma faute. C'est ma faute.
Ouais.
Et Léa Seydoux qui répond, mais non, c'est la mienne. Et en fait, t'as tout compris là. C'est-à-dire qu'en fait, chacun se
ramène à soi. Quoi.
Ramène à soi, mais toujours dans la négativité. Tu vois, tu vas jamais te dire, ah ouais, mais si on a vécu ce bon moment, c'est grâce à moi. Non, non, c'est si on a vécu ces mauvais moments. Après, c'est à cause de moi. Et je pense que c'est un peu tout ce qu'il essaie de nous présenter. C'est un peu le résumé de tout ce film, que chacun se croit coupable. Et il ne l'est pas forcément. C'est juste se croit coupable de problèmes relationnels, de choses comme ça. Alors que,
C'est une manière, et il le ramène toujours à ça, c'est-à-dire que chacun est enfermé dans son monde, chacun est dans son gros plan, en fait. Et c'est un peu pour ça qu'il filme comme ça, de manière enfermée, c'est-à-dire qu'il fait des scènes de groupe, mais il veut pas filmer plusieurs personnages à l'écran. C'est chacun est enfermé dans son truc et a du mal à communiquer avec l'autre. Et pour revenir aux acteurs, en fait, c'est les autres, si je les ai bien aimés, mais que je les aime un peu moins que Nathalie Baye, c'est que j'ai pas vu chez les autres cette évolution dans leur personnage. C'est-à-dire que souvent sur les autres, on va être dans quelque chose de plus monotone.
Même Vincent Cassel, t'as pas trouvé que...
Non, c'est-à-dire que Vincent Cassel...
C'est un peu tardif, peut-être.
C'est un peu tardif, et puis Vincent Cassel, en fait, il est sur un mode agressif dès le début. Et il y a pas vraiment, tu vois, d'évolution sur ça. Et l'évolution que je vais voir, c'est surtout sur comment il va s'ouvrir finalement au niveau du texte, au niveau du dialogue. Mais c'est pas forcément dans la performance d'acteur. Nathalie Baye, je vois beaucoup plus de nuances dans son jeu. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire.
En fait, j'ai l'impression d'un personnage beaucoup beaucoup mieux composé chez Nathalie Baye que chez les autres, quoi. Et pas jusqu'à dire que j'aime pas les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve leur interprétation quand même moins fine les autres.
Après, je te rejoins parce que pour moi, voilà, ce que je disais au début, et c'est fou parce que ça m'a frappé pendant que j'étais en train de regarder le film, mais c'était juste avant une grosse scène justement de danse sur Drago Stadintei dans la cuisine. Je me disais, Gaspard Ulliel, Léa Seydoux, et Marion Cotillard. Mmh. J'ai fait oublier qu'elle était dans le film. Je vois que ce sont des acteurs qui jouent ces personnages, et alors que voilà, quand j'ai des scènes avec Nathalie Baye et Vincent Cassel, j'ai quelqu'un, en fait. J'ai une entité à part entière qui a été créée totalement. C'est pour ça que je trouve que voilà, si je devais mettre, on va dire, un plus un, ça ne veut pas dire que les autres jouent mal, comme tu disais, mais c'est vrai que si on peut mettre
un petit peu de doré. Il faut le dire, il a gardé parfois des pans entiers du texte de Lagarce, qui est un texte qui est très dur. Il y a beaucoup d'hésitations, c'est pas un texte de cinéma, quoi. Il y a un jeu qui est pas totalement naturaliste, hein, et je pense qu'il est...
Après!
Effectivement, t'as Nathalie Baye qui s'en sort peut-être mieux. Je sais pas si c'est une question d'expérience ou aussi de rôle qui est plus simple, mais en tout cas sur Léa Seydoux et Marion Cotillard, c'est deux femmes dont la caractéristique est d'hésiter et de revenir tout le temps en arrière quand elles parlent. Ce que ne font pas la mère et Vincent Cassel. Et donc je pense qu'elles ont aussi une partition qui est très dure, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui, c'est deux rôles qui bafouillent et qui reviennent sur tout ce qu'elles disent. Donc la sœur se contredit tout le temps, dit tout et son contraire, et le personnage de Marion Cotillard, elle bafouille tout le temps. Elle n'arrive pas à sortir les mots. Donc il y a quelque chose de laborieux dans leur personnage aussi. Hein, donc c'est
Je suis d'accord, mais et d'ailleurs, en fait, ce sera peut-être ça que je... Je recollerai à ce que je disais tout à l'heure. Bah, justement, j'aurais peut-être préféré une adaptation un petit peu plus grande de ces personnages à quelque chose de plus cinématographique. Alors, même si d'ordinaire, moi, j'adore les films qui sont tirés de pièces de théâtre. Hein, j'adore ça. Et tu sais, même quand on te le dit pas, t'as ce petit feeling de « Ah, mais ça devait être une pièce de théâtre, forcément. » Et parfois, ça passe très bien, mais là... par exemple, pour Marion Cotillard, est-ce que, je comprends que ce soit dur à jouer quand tu l'as sur ton script, mais est-ce que, je sais pas, toutes ces trop d'hésitations, tu tues un peu le personnage dans le sens où, tu sais, à un certain moment, ça flirtait avec le j'y crois plus. Voilà. Ouais, mais bon, après, c'est ma vision.
Il y a quelque chose que j'aime bien et d'une manière générale sur la langue, parce que j'ai entendu beaucoup de gens, par exemple, dire que, finalement, ce film était moins intéressant que les autres films de Dolan parce que il y avait pas ce travail sur le joual, quoi, sur la langue québécoise qu'il faisait. Mais il y a un travail tout aussi important sur la langue ici que sur ces autres films, et on sent qu'il y a quand même quelque chose qui change pas là. Et il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ça, c'est-à-dire cette manière d'avoir à la fois un dialogue très naturel dans ses hésitations et tout ça, mais à la fois très travaillé, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans ses hésitations je vois que c'est de l'improvisation, et donc ça me situe à un endroit un peu, mais que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je vois le travail de l'acteur, je vois que le jeu est pas naturaliste mais qu'il est là pour essayer de me transmettre quelque chose, et dans ses nombreuses hésitations qui sont pas seulement d'ailleurs des bégaiements, c'est-à-dire que pour dire quelque chose d'aussi simple que on a une tradition familiale en fait d'appeler le fils du nom de son père, ça dure 5 minutes quoi.
Oui.
Où elle dit ça et elle va le dire pendant 5 minutes sur plein de dialogues, et où on va revenir, et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau comme ça sur la manière de décortiquer le langage pour dire quelque chose sur le personnage.
Bah, c'est ouais. Oui, c'est exactement, en fait ce qu'elle cherche, ce que ce personnage fait, c'est elle veut surtout pas dire ce qu'il ne faut pas dire, et en fait du coup à chaque fois elle le ressort, hein, celle qui met les pieds dans le plat.
Ouais, mais parce qu'elle a un comportement très agressif avec ça. C'est passif-agressif son comportement, ouais. Parce qu'il y a quelque chose, c'est au début en fait elle a envie de se faire aimer par lui, il y a quelque chose qui se brise à un moment donné, où il y a le Louis, donc le personnage principal, qui lui dit « Ah, mais en fait, ton mari, donc son frère, a dû te monter contre moi.
Ouais. »
Et ça passe pas, parce que de la part de quelqu'un, en fait, qui est pas revenu depuis 12 ans, à partir de là, elle va être très agressive avec lui, c'est-à-dire que là, Louis va dire, va lui répondre, c'est-à-dire que là, elle va demander « Mais pourquoi tu me dis ça ?» alors que ouais. c'est pas forcément le cas. Et là, il y a Louis qui dit « Oh, tu sais, moi, je connais mon frère. » Et là, elle lui répond ouais. « Ah bon ?» Ouais. Tu le connais vraiment? Et après, ouais. et après elle annule, elle dit non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, tout ça.
Et d'ailleurs, juste pour revenir à ce que tu disais sur les hésitations de Marion Cotillard et le fait que c'est son premier film, son premier film sans accent québécois. Je vais tout simplement juste prépasser ce que je veux dire en disant que c'est aussi un film où on ne sait pas volontairement où et ouais. quand c'est situé.
C'est visiblement au Canada que ça se passe, parce que c'est pas des images de France qu'on voit.
Voilà, quoi, c'est pas des images de France, et en plus, est-ce qu'on voit inscrit, c'est le premier encart du film, c'est quelque part, il n'y a pas si longtemps, je crois, c'est ça, hein,
ouais, quelque chose comme ça, ouais.
Évoqué au tout début du film. Et effectivement, tu te dis, bon, en fait, c'est clairement pas en France, mais tout le monde parle français sans accent, et tu vois, c'est une façon
c'est
de te faire
grave,
un petit peu.
C'est pas très
important. Non, c'est pas. Non,
mais c'était une manière aussi de le situer dans un endroit universel, c'est-à-dire mettre des Français au Canada.
C'est juste l'intemporalité qu'il essaye, à mon avis, de nous donner, en fait. Attendez deux petites secondes. Vous me voyez? Vous m'entendez? Oui, oui. J'ai cru avoir un petit souci.
Non, mais à ce sujet...
Oui, ce que je disais, c'est l'intemporalité, et ce que j'ai trouvé plutôt intéressante aussi, parce que c'est vrai que c'est aussi la volonté pour... lui de donner ça à n'importe quel spectateur et pouvoir dire ah, mais je vais appliquer ma vie parce que forcément je ne sais pas où ça se passe dans un truc blanc. Et juste pour revenir également aux paroles et à la diction des gens, c'est le premier donc où il n'y a pas la musicalité un peu de cet accent québécois, et je trouve qu'il a peut-être fait je réalise que maintenant c'est toute la façon de parler de Marion Cotillard, de Nathalie Baye, etc. Ça a été peut-être un peu sur mon travail sur le rythme de cette diction juste française, franco-française, sans l'accent québécois. Il fallait qu'il se rattrape quelque part, quoi, en fait, dans la musique.
Oui, mais surtout parce qu'il a un vrai... J'en avais parlé il y a quelques temps avec un ami québécois, et il me disait que ce qu'il aimait, lui, dans les films de Dolan, c'est que dans la plupart des films québécois, ils y vont, et les gens parlent comme en France, en fait. Parlent comme à Paris, même. Avec un français très soutenu qui correspond pas au langage qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que même lui il m'expliquait que au Canada, selon les endroits, on parle avec plus ou moins d'anglais dans les phrases, où on peut passer de l'un à l'autre, ou cette manière de détourner les choses et tout ça. Et que souvent, quand ils vont au cinéma ou quand ils allument la télévision même québécoise, on parle comme en France, en fait. Et qu'il y a quelque chose. D'accord. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très francophone. On en a déjà parlé dans le podcast. Mais c'est quelque chose que je regrette. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'accent dans le cinéma français. Et il n'y a pas cette manière de travailler le langage comme ça. Et d'essayer de voir ce qu'il peut y avoir de spécifique pour un personnage qui a pas grandi à Paris. Ce qui fait que son langage va être différent des autres. Et ce que j'aime bien chez Dolan, c'est ça aussi, quoi. C'est cette manière qu'il a de travailler le langage de la vie des tous les jours. Pas à dire, il y a certains réalisateurs qui le font et qui le font très bien. Je pense à Kechiche, par exemple, ouais, aussi. Qui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare quand même. C'est assez rare.
C'est très rare. Généralement, oui, on cherche plutôt à enlever les accents. Mais pour revenir au film, moi, ce qui, effectivement, ça. Moi j'ai l'impression vraiment d'avoir une troupe de théâtre. Alors c'est pour ça que je dis, c'est pas très gênant. Je me pose pas la question du lieu. Ou de l'accent ou pas de l'accent, parce que pour moi j'ai très vite, il nous plante un décor, en fait, la maison, cette maison qui effectivement elle pourrait être très réaliste, mais en fait elle l'est pas, puisque tout est beaucoup trop sombre, quoi. Il y a ce bois qui est partout, quand on est même étouffé dans le décor, tout s'annonce, le maquillage s'annonce vraiment comme quoi, tout le costume est là, c'est du costume, c'est du maquillage.
Ah, c'est vrai,
on a beaucoup alors c'est des codes qu'on retrouve dans beaucoup de films de Xavier Dolan, mais là on les a encore plus intensifiés, d'ailleurs avec ces gros plans on voit le maquillage qui coule au fur et à mesure. Quoi, il prend quand même des codes du théâtre comme ça, d'assumer totalement ce qui est décor, ce qui est factice, et de l'intégrer en fait à sa mise en scène.
Ouais.
Et donc pourquoi pas là, effectivement, le fait d'avoir des Français qui jouent dans un décor de montagne au Canada, quoi.
Ah non, mais bien sûr, hein, non, c'était pas du tout, j'allais dire, un jugement sur... mais c'était intéressant, du coup, d'analyser le choix, en fait. Pourquoi... parce que je me dis, il veut forcément, je sais pas, lancer un petit message quand il fait ce
choix-là. Ouais, c'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est un choix conscient, en fait.
Ouais, c'est un choix, ouais. Et bah, du coup, combien de... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en non-spoiler, déjà?
Beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'on en parlera dans la deuxième partie, ouais.
Ok, bah à ce moment-là, je... Vous demandez votre note de burger, combien de miam vous donneriez à ce film sur 5, toujours.
À moi, la première, écoute...
6
comme d'habitude, je suis... moi je pense que je mettrais 3 miam, voilà, 3.
3, ok. Ouais.
Je mets 3 miam, moi aussi.
D'accord. Eh bien écoutez, je crois qu'il y a consensus aussi, parce que j'en mets... 3 également. Ceci dit, en parler avec vous, comme je disais, je réalise qu'il y a beaucoup plus de choses que j'ai aimées, que je veux bien me l'admettre juste après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 miams, parce que j'étais pas parti pour mettre 3 miams, et puis voilà, ce sera revu, tu sais, dans annuellement, hein, par mon comité cérébral. Ok, merci beaucoup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une section de ce que vous avez vu dernièrement. Je ne sais pas si vous avez 2-3 films en tête dont vous voulez parler. Ensuite, on reparlera de la session spoiler de ce même film. Que vous voulez faire connaître des films que vous avez pu voir au cinéma ou à la maison.
Ouais, j'ai un petit coup de cœur là récent d'un film que j'ai vu au cinéma, c'est Brooklyn Village de Ira Sachs.
D'accord.
Et donc en fait l'histoire du film elle est extrêmement simple. En fait c'est l'histoire d'une famille un petit peu bourgeoise de Manhattan qui vient de perdre le grand-père de la famille qui vivait à Brooklyn et du coup il décide d'aller s'installer dans la maison du patriarche. Parce qu'ils ont des petits problèmes d'argent en ce moment, et en fait au rez-de-chaussée de cette maison il y a une couturière chilienne qui a un petit magasin de couture sur mesure comme ça, et en fait le fils de la famille se lie d'amitié avec le fils de cette couturière, et le père va décider d'augmenter les loyers parce que les loyers à Brooklyn ont augmenté et qu'elle elle ne paie pas le prix qu'il faut, et si le loyer doit augmenter, ça veut dire qu'elle va devoir se barrer.
D'accord.
Et en fait tout le drame qui va surgir c'est de ça, parce que pour ces ados, tu vois, qui sont devenus amis, en fait il y a rien d'autre qui compte dans leur vie, tu vois que ça. Et en fait c'est un film qui aborde un sujet que j'ai très peu vu aborder au cinéma, qui est la gentrification. Puisque on voit ce Brooklyn qui est en train de se boboiser, les prix qui commencent à flamber, les gens qui habitaient là, qui ont des magasins qui ne correspondent plus au voisinage, qui sont obligés de se barrer, et où on voit une violence qui est exercée sur les classes les plus pauvres. Et en fait, la manière qu'il a de le montrer, c'est une manière un petit peu biaisée par un petit drame. Ira Sachs, je ne sais pas si vous connaissez un peu son cinéma, c'est un cinéaste américain. Il avait fait un film l'année dernière qui s'appelait Love is Strange, qui était pas mal du tout. Et je pense pas que ce soit un grand cinéaste, mais il y a quelque chose que j'aime énormément chez lui. C'est-à-dire qu'on en a parlé récemment, notamment dans l'épisode Blockbuster, de plus en plus, en fait, les films américains sont faits pour l'exportation. Et je vois de moins en moins, en fait, de culture américaine dans le cinéma américain. Je sens pas des films qui me parlent de l'Amérique. Et dans les films d'Ira Sachs, j'ai vraiment l'impression d'avoir des films américains. Un peu comme quand je vois un film de Linklater aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que quand je vais au Cinoche, j'attends de voir un film qui m'émeut, etc., etc., mais je veux aussi que le film il me donne des nouvelles du monde, un petit peu, et voilà, c'est un film qui m'a bien plu. Je crois que j'y donnerai 3 miams aussi.
D'accord. Tu l'as vu au ciné, du coup,
ça? Je l'ai vu au ciné, ouais. Il vient de sortir.
Okay, d'autres films, ou Alice, quelque chose
Non, moi, après, je pense que mon coup de cœur, en ce moment, quoi, que je suis allée voir, là, cette semaine, c'est Victoria, mais je pense que, pour l'instant, le public suit énormément. Donc je suis assez heureuse en fait que cette comédie voilà, qui est annoncée comme une comédie, qu'il est un peu plus amer que la bande annonce peut l'annoncer, en tout cas très grande cinéaste Justine Triet, voilà, j'ai hâte de voir les prochains. J'avais beaucoup aimé son premier, et peut-être que la seule chose que je peux encourager, c'est peut-être aux gens qui ont aimé Victoria de regarder son premier film La bataille de Solferino, qui était très très bien aussi,
voilà. D'accord, oui, d'accord.
J'approuve personnellement, j'avais pas aimé le premier, la bataille de Solferino, donc j'étais allé à reculons. Et Victoria, en fait, j'ai beaucoup aimé, ouais. C'est une comédie romantique bien ficelée, bien foutue. Ouais.
Et qui fonctionne aussi sur un Vincent Lacoste qu'on aime de plus en plus, en tout cas moi pour ma part, je trouve qu'il commence à avoir une carrière vraiment, vraiment intéressante, en fait. Et par ses choix d'accord. aussi, quoi, c'est un acteur.
Donc, à suivre, lui aussi.
Oui.
Et d'ailleurs, peut-être en profiter pour dire que les deux succès de la rentrée, c'est Victoria et Juste la fin du monde. Et ça fait plaisir, ouais. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'on a eu des blockbusters pas très intéressants cet été, on en a déjà parlé, le contre-coup, c'est peut-être...
Voilà. On en parlait justement dans l'épisode blockbuster que, naturellement, probablement, le public, vivrait un contre-coup, hein, une espèce de regain peut-être pour les films plus ou moins... pas forcément indépendants, mais en tout cas moins... avec moins de testostérone et de stéroïdes. Moi je voulais parler de deux films. J'ai vu The Green Room, je sais pas si t'avais entendu parler de...
Oui.
De ce film, je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs.
Oui.
The Green Room, c'est une sorte de semi-huis clos qui est classé dans les survival horrors avec Anton Yelchin. C'est l'un des derniers films avec Anton Yelchin. Je sais pas si c'est un français le réalisateur, parce qu'il s'appelle Jérémy Saulnier. J'avoue que j'ai pas.
Non, il est américain. Il est
américain. J'ai oublié de cliquer Jérémy sur lui sur IMDb. Saulnier. Et avec Patrick Stewart aussi, qui dans ce film joue une sorte de chef d'un parti aryen. Voilà. En fait, ça parle d'un groupe de punk rock qui se retrouve plus ou moins dans un endroit reculé de Caroline du Nord, je sais pas où, en gros en toit de forêt, où ils ont fait un petit gig en se foutant de la gueule de nazillons qui se disent punk, sauf que 90% du public là était des nazis, et ils se retrouvent plus ou moins cloîtrés dans leur loge, qui s'appelle normalement The Green Room, dans les coulisses américaines. Et de là, se crée ce survival horror où il faut absolument résister, tenir bon et pouvoir s'en sortir vivant de cet endroit et de cet endroit de redneck. Et ça m'a surpris, c'était vraiment pas mal. J'étais à la base à la recherche d'un vrai film d'horreur. Je sais pas pourquoi vraiment ils ont mis ce film dans les survival horror. J'aurais dit je sais pas, une sorte de semi-thriller, ou quelque chose comme ça. Il y a certes un petit peu de gore, la photo est très bien, très glauque, et c'était plutôt cool. Voilà, moi je lui mettrais 3 miam et...
Juste pour dire, le premier film de Jérémy Saulnier, donc qu'il avait fait avant, que je trouve bien plus intéressant, c'est Blue Ruin, que je conseille à tout
d'accord.
le monde.
Je l'avais vu, en fait, je savais pas que c'était lui. Oui, d'accord. Bah voilà, faites-vous plein de films de Jérémy Saulnier. et simplement, je vais juste terminer parce que j'ai vu un autre film au ciné, j'aurais aimé en parler, c'est Infiltrator. Avec Bryan Cranston, ça te dit quelque chose? En fait, c'est l'histoire vraie d'un mec du NBA qui était undercover chez les blanchisseurs d'argent pour la plaque américaine de Pablo Escobar, et qui a permis, c'est tiré d'une histoire vraie, d'arrêter beaucoup, beaucoup de dealers, etc. Je n'ai pas adoré ce film. Je t'avoue, pourtant, j'aime beaucoup que ce soit le contexte des années 80 à Miami, le fait de parler de narcotrafiquants, parce que là, mais le problème, c'est que aujourd'hui, ils doivent faire face à des séries comme Narcos qui sont juste excellentes. Et tu vois, comme quoi, j'en avais pas marre, parce que même après avoir fini la saison 2, je suis quand même allé voir ce film au ciné. Mais je l'ai trouvé un cran au-dessous, que ce soit en termes de tension. Il y a les fameux moments où tu as les gens qui sont infiltrés, où ils sont à deux doigts d'être pris. Et j'ai trouvé que je ressentais beaucoup plus de tension dans un vrai bon film, comme justement Les Infiltrés, Ou alors, ne serait-ce que dans certains épisodes de The Shield, plutôt que dans ce film-là. Donc je vois, vraiment, j'ai trouvé un cran en dessous. Même si c'était plutôt bien joué, je pense que le scénario aurait pu être un petit peu plus musclé dans la tension et raccourci peut-être dans tout le propos. Du coup, mais quand même, je serais gentil avec le film, je lui donnerais 3 miams, parce que voilà, 6 sur 10, ça va. Voilà. C'était mes deux films de la journée. Et ben très bien, du coup, voilà. Du coup, toutes les scènes que tu ne pouvais pas aborder, tu vas pouvoir en parler maintenant dans la section spoiler de Juste la fin du monde.
Ouais, en fait, aussi déjà, j'aimerais peut-être dire quelque chose d'un peu plus général sur le cinéma de Dolan et comment ce film s'inscrit dedans, parce que donc on parlait de l'omniprésence du gros plan dans ce film-là. Mais il y a quelque chose, c'est que il a toujours aimé en fait reprendre des figures extrêmement simples et extrêmement galvaudées pour essayer d'en faire autre chose. Et il y a un film de lui que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom à la ferme,
tiré d'une pièce de théâtre également,
qui était aussi tiré d'une pièce de théâtre. Et là où tout le film est filmé en fait en champ contre champ master. Et le champ contre champ master, c'est peut-être la figure la plus utilisée du cinéma. Donc juste pour
éditer des films.
Ouais. Mais non, pour aider beaucoup des téléfilms, moi, justement.
Oui,
parce que
c'est pour ça que maintenant on évite, il y a certaines personnes qui évitent un peu à faire ça, parce que c'est une connotation, je dis ça parce que c'est une connotation maintenant très télé de faire ça.
Ouais, très négative. Ouais. Et,
la forme la plus classique de filmer un dialogue, tout simplement.
Oui, pour résumer, c'est.
Faire
c'est
de la marge et de pas faire de choix.
C'est pour pas faire de choix, parce que t'as quelque chose dans cette figure-là, donc c'est tout simplement pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu filmes une conversation avec un gros plan d'un personnage, le gros plan de l'autre personnage, et un autre plan, en fait, qui filme les deux à la fois. Et ensuite, au montage, tu vas monter ça, de faire en sorte, quand c'est bien monté, en fait, que le spectateur ne ressente de manque nulle part, c'est-à-dire qu'il ait l'impression d'assister à toute la scène. Mm-hmm. Et ou qui voit tous les moments importants de cette scène-là.
On ne prend que le meilleur de chaque.
C'est ça. Et donc là, Dolan décide de filmer son film entièrement comme ça, avec des extrêmes, c'est-à-dire que généralement les gros plans sont très rapprochés et les plans larges très très larges. Et surtout, c'est-à-dire qu'il retourne la figure pour en faire autre chose. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser cette figure pour montrer tout ce qui se passe dans la scène, il l'utilise pour masquer des éléments. C'est-à-dire que dès le début, dans une première partie du film, par exemple, je crois que pendant toute la première demi-heure, on voit pas la tête d'un des personnages principaux.
Ouais.
Et il le fait toujours en masquant, c'est-à-dire que de mettre le plan au moment où on voit pas sa tête. Ou encore une très belle scène du film aussi, où en fait, pour résumer un peu ce qui se passe dans la pièce, parce qu'il faut un petit peu de contexte quand même. Donc Xavier Dolan, en fait, c'est l'amant du fils d'une famille de fermiers québécois. Et il va dans cette famille pour aller à l'enterrement. Et là, en fait, il se rend compte que la famille n'est pas au courant qu'il était homosexuel et ne sait pas du tout, en fait, qu'ils vivent en couple durant des années. Et il y a une scène où il révèle à demi-mot, en fait, qu'il a été l'amant de leur fils, c'est-à-dire que il continue le jeu, en fait, en parlant du soi-disant une petite amie qu'aurait eu le fils de cette famille. Et la mère demande des éléments sur cette petite amie qui n'existe pas. Et là, Xavier Dolan part dans un monologue très très cru où il décrit en fait les ébats sexuels qu'il avait eu avec le fils de cette femme. Et en disant que c'était la petite amie qui avait ça, mais il décrit des trucs extrêmement précis. Hein, c'est très très graphique, etc., etc. Et donc là, durant ce moment, dans le champ contre champ, il décide de pas mettre la mère. On ne voit que Xavier Dolan, et dans n'importe quel film, on aurait montré, en fait, l'évolution de la mère qui commence à apprendre ça, qui commence à nier le fait que son fils était homosexuel, etc., etc. Et au lieu de ça, en fait, il nous laisse mariner dans ce long monologue, et tout d'un coup, en fait, on est interrompu par un rire, là, la caméra revient sur la mer et on se rend compte que la mer rit. Et en fait, il va monter un peu tout le film comme ça et arriver jusqu'à un moment aussi où il y a une scène dans un café qui est formidable, où en fait il y a une révélation, c'est-à-dire que le propriétaire de ce café parle avec Xavier Dolan en fait de ce qui s'est d'un élément qui s'est passé et qui nous refait voir un peu le film d'une autre manière. Et en fait la manière qu'il a de traquer ce personnage avec ce champ contre champ en refusant toujours de le lâcher, en étant toujours là, en fait il a une manière en fait de reconstruire la figure pour essayer de l'amener autre part. Bon. Dans juste la fin
du
monde.
Tu trouves que du coup là dans ce film il a fait un peu la même chose mais avec les gros plans?
Il y a un peu de ça, et parce que je vais dire il y a quelque chose qui commence à m'insupporter, c'est-à-dire que je me rends compte qu'au cinéma on filme toujours de plus en plus près, c'est-à-dire que le gros plan il devient omniprésent, ça vient aussi des caméras numériques.
Ouais mais et... voilà, on a HD, il faut l'utiliser.
Ouais mais en fait ça vient d'une réflexion un peu bête, c'est cette idée que si je filme en gros plan je vais être plus près des personnages et je vais mieux voir les émotions, et je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Et ici il utilise plutôt les gros plans comme une manière d'isoler les personnages et de les enfermer quelque part. Donc je sens un véritable choix plutôt que de filmer des performances d'acteurs. Cela dit, je trouve ça quand même moins intéressant que d'essayer de retravailler le champ contre champ master. Peut-être parce que le gros plan a été surutilisé ces derniers temps et que et qu'il y a quelque chose qui commence à m'énerver dans ça. Et surtout que ici ça amène quelque chose, c'est-à-dire que on en revient à ça, mais Dolan c'est un réalisateur qui est extrêmement directif, c'est-à-dire qu'il a pas envie qu'on s'éloigne de son propos dans la manière qu'il a de filmer. Comme je le disais, il aime pas qu'il y ait plusieurs éléments dans un plan, il aime bien mettre une chose, un point de focus, etc., etc. Et là le fait d'utiliser que des gros plans, ça l'amène un peu dans ses derniers retranchements ici aussi, c'est-à-dire que il y a peu de moments pour respirer, je sens en permanence, tu vois, qu'il veut me montrer quelque chose et quelque chose de précis, ce qui peut être très beau à certains moments, mais en fait, je trouve ça un petit peu étouffant à la longue, en fait.
Bah, moi, j'ai pas... ce que je nuancerais dans ce que tu racontes, effectivement, sur... Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il veut me montrer quelque chose à tout prix, ou est-ce qu'il veut pas me montrer ce qu'il voit, lui, tout le temps? J'ai eu l'impression d'être vraiment qu'on était en point de vue Xavier Dolan en fait, et je me suis dit, est-ce que ce mec dans la vie effectivement quand on parle comme ça, est-ce qu'il serait pas en train de faire lui un espèce de gros plan sur un téléphone portable ou sur une manière comme ça de se focaliser sur quelque chose et d'être complètement inattentif au reste, comme son personnage principal en fait.
Après je suis complètement d'accord, mais il y a quand même une manière, si je pense par exemple à Akira Kurosawa qui lui filmait très très large pour le coup, et il a une manière de faire en sorte qu'on focalise sur un point par en dirigeant les regards des acteurs quelque part. C'est-à-dire que tu vas voir le plan large, mais tout d'un coup t'as un des acteurs qui ne bougeait pas depuis le début du plan qui va se mettre à regarder un élément, et toi tu n'as pas d'autre choix que de suivre le regard du personnage pour... c'est-à-dire qu'il réfléchissait toujours à des manières de diriger l'attention du spectateur à un endroit précis du plan, dans un plan qui disait plusieurs choses, ce que fait pas du tout Dolan, et je comprends, c'est pas son style, c'est pas ce qu'il veut faire, etc., etc. Mais si tu veux, cette manière très directive de faire les choses, que je peux adorer, j'aime beaucoup Hitchcock qui faisait ça aussi, couplé avec un gros plan en permanence, je comprends pourquoi, je comprends le raisonnement intellectuel qui l'a amené à vouloir construire ce film comme ça, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de défaut, je vois vraiment un auteur qui choisit quelque chose, qui a un parti pris et qui le fait. C'est juste que dans mes goûts personnels, on va dire, c'est vrai que j'ai tendance à aimer les films découpés larges. Et
tu diras, ça c'est un choix, c'est un goût, mais c'est vrai que en fait je te rejoins totalement sur ce film-là, et c'est ce que je disais au début. Il y a des choses qui clairement, j'ai compris que c'était fait exprès, j'ai compris que c'était un choix, mais j'ai du mal à être d'accord avec ça. Mais pour moi, il arrive à regagner, voilà, s'il a eu ses 3 miams, c'est aussi parce que il arrive à me transmettre de l'émotion assez, assez folle avec des scènes qui arrivent, d'autres scènes qui m'ont laissé totalement, vraiment totalement stoïque, tu vois. Et c'est encore plus fort parce que normalement, voilà, dans un film, quand tu construis petit à petit ton émotion, au bout d'un moment, je comprends que tu dises, oh là là, mais c'est beau ce qui est en train de se passer. Et là, justement, ce qui est intéressant et qu'il arrive à faire, c'est sortir tout un bloc, toute une scène avec énormément d'émotions de quelque chose d'assez commun, d'assez banal et que même particulièrement, peut-être, je peux ne pas forcément aimer techniquement. Et pourtant, ça me touche quand même, en fait. C'est le contraste qui ne va pas me faire dire oula, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Non, moi je suis rentré totalement dans ça. C'est quand même assez bizarre.
Tu peux parler des scènes en particulier.
Oui, bah, du coup, mais franchement, ça va être. Enfin, je sais pas, parce que je sais pas si c'est la même. Parce que bon, du coup, je vais passer pour un con si je vais dire ça. Mais moi, la scène de Drago Study Day, juste le moment où t'as le flashback son frère et lui. Jeune, en fait, sur cette musique, j'ai pas pu m'en tenir, quoi. Tu vois, parce que la scène avait commencé, pour moi en tout cas, l'émotion énorme avait commencé avec ce petit clin d'œil qu'avait fait Gaspard Ulliel à Vincent Cassel quand sa sœur et sa mère se sont mises à danser sur, comme tu disais, voilà, sur ce cours d'aérobic où elles ont entendu cette chanson de Moisy. Et là, tout de suite, tu vois, j'ai senti le lien familial que je n'ai jamais vu jusqu'alors. Ça m'a pris. Du coup, moi, dans ce flashback qui est... En plus, tu sens que c'est voulu parce que, tu sais, il a ses flashbacks avec une photo d'une très grosse chaleur où on a ces tons jaunes, orangés, comme ça. T'es en mode... Pour une fois, t'as chaud dans ce film qui est censé pourtant se passer dans une pleine canicule. On te montre des gouttes de sueur à la toute fin sur le cou de Marion, non, sur le cou de Léa Seydoux, j'étais obligé de me dire ah oui, c'est vrai qu'il est censé faire chaud, et j'ai eu froid pendant tout le film, en fait, sauf pendant ces flashbacks.
Bah, il sue quand même, hein, pendant tout le film, tu les as en gros plan, t'as le maquillage qui coule quand même de manière assez sévère.
Ouais, la peau qui colle.
T'as la peau qui colle.
Il crie tellement, je me dis, c'est à cause de leur agitation.
T'as la nuque du miel qui est toujours filmée, lui, il sue de plus en plus, on a toujours sa nuque comme ça, un rappel de la chaleur. Mais effectivement, c'est ce qui est étrange, c'est qu'on est dans une maison, moi, qui me fait penser à un chalet de montagne. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression vraiment qu'ils sont au milieu des Alpes. Mais, t'as des personnages qui sont extrêmement couverte, bon, à part peut-être Léa Seydoux qui est en short et en débardeur, mais sinon, je rappelle que Gaspard Ulliel arrive avec une doudoune, quoi, ou en tout cas un manteau très très épais, qu'il a une veste, quoi, et qu'effectivement, on sent pas forcément physiquement la chaleur.
Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui a fait les costumes, je sais pas si vous,
oui, mais
vous
avez remarqué dans sa mairie, quoi,
c'est bien Xavier Dolan qui s'est occupé des costumes de
oui,
ce
oui,
film,
quoi, il monte, il s'occupe même des sous-titres anglais, hein, si on regarde le générique au bout, jusqu'au bout, oui, c'est là où il est très attaché à la langue et au...
Quoi,
c'est
oui, forcément.
C'est quasiment une névrose, quoi. Enfin,
il veut son Oscar aussi, donc voilà. Il veut s'occuper des sous-titres lui-même.
Mais non, c'est... Effectivement, je pense que... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Dans ce film, peut-être, c'est là où... Je pense que ce qui m'a le plus... c'est que d'habitude, Xavier Dolan, c'est quelqu'un qui fait des œuvres de 2h30, il y a beaucoup de détours, tout ça. Et là, d'un coup, on est dans un film, c'est une bombe à retardement, parce qu'il y a une annonce extrêmement forte qu'on nous annonce, et puis pendant tout le film, on se dit quand est-ce qu'il va lâcher. Et moi, peut-être la scène qui m'a le plus bouleversé, c'est la scène avec la mère. Donc déjà on sort un peu de la maison, on est dans une espèce de cabane, de grange, je sais pas trop quoi, et puis là d'un coup elle désamorce cette bombe et elle change l'annonce qu'il doit faire dans cette scène, et qui et d'un coup est plus du tout sur quoi, du coup on est dans la partie spoiler, j'ai envie de dire donc elle lui demande de dire à sa sœur que elle fait voilà, tu reviendras pas, je le sais, mais tu pourrais au moins dire à ta sœur que qu'elle a le droit de venir te voir, quoi. Elle lui annonce quoi, ce qu'il doit dire à son frère, ce qu'il doit dire à sa sœur pour que ça marche, pour même si c'est, même si tout le monde sait que c'est faux, ou en tout cas quoi, pour que ça marche, pour que ça s'apaise. Et donc il y a une deuxième annonce comme ça qui est faite, une deuxième promesse en fait qui est faite et qui est plus du tout sur la sur cette mort et sur le fait que lui reviendra plus, qu'il va mourir, mais sur la réconciliation aussi ou sur les liens qui sont faits. Et c'est là où effectivement, bah, Nathalie Leibaï est une immense comédienne. Hein, c'est parce que ça marche aussi parce que elle apporte, elle tient cette scène, elle nous fait naviguer. Quoi. C'est bouleversant. Quoi. Je pense que moi j'aimerais beaucoup revoir le film pour rien que pour ce passage-là en fait, qui est très très beau dans sa manière. Oui, d'amener en fait cette nouvelle annonce en fait.
Oui, comme tu dis, il y a quelque chose de clé parce qu'en fait, c'est le moment où il se rend compte que c'est trop tard en fait. C'est-à-dire que ça fait 12 ans qu'il est revenu. S'il vient et qu'il leur dit que la raison pour laquelle il est revenu, c'est pas parce qu'il les aime,
ouais.
Mais c'est toujours pour lui. C'est parce qu'il va mourir. Ouais. Il se dit c'est plus possible en fait de leur dire quoi. C'est-à-dire
c'est
que
aussi... c'est aussi la scène où effectivement il se rend compte. Qui masquait son égoïsme parce que tu sais, même quand il était dans l'avion et après avec sa première discussion avec sa sœur Léa Seydoux, il dit si je suis revenu, c'est pour vous. Et c'est grâce à cette scène avec sa mère où en fait tu te rends compte qu'il se ment à lui-même. Non, c'est pas pour eux, t'es revenu
non.
Pour toi.
Non.
Tu espères, tu espères quelque chose, je sais pas, une sorte de rédemption parce que tu sais. Serait le personnage mourant de ton propre film qui est ta vie, tu vois.
Ouais, il espère que la vie des autres s'arrête pour lui, en
oui.
fait.
Et c'est
pour
juste ça que... la fin du monde, voilà.
Ouais. Et c'est pour ça qu'il le dit, parce qu'on peut, on peut spoiler, ce qui est très beau dans le film, c'est qu'il le dira jamais, en fait.
Non.
Ouais.
Il le dira pas, il fait le progrès, ouais, il dit ce que sa mère lui a demandé de dire à son frère et sa sœur. Bon, ça se passe très mal, puisque je pense que le frère a une réaction plutôt violente, en fait, démonte cette annonce.
Ouais.
Mais effectivement, ce personnage, d'un coup, voilà, il se rend compte qu'il peut pas faire cette annonce, mais c'est quand même quelqu'un qui a tout le temps envie de se tirer, quoi. Même si, et son frère, à la fin, lui dit, tu te tires, mais je pense qu'il ne fait que, physiquement et verbalement, dire une envie profonde de ce personnage qui, pendant tout le film, il passe son temps à regarder sa montre, quand même, ou à regarder l'heure. C'est pas du tout, effectivement, ouais. C'est un personnage qui, on découvre au fur et à mesure son égoïsme et son incapacité à s'ouvrir, à sa famille.
Il y a quelque chose de terrible dans ça, c'est-à-dire que justement, dans cette dernière scène, il propose notamment à sa sœur de venir le voir, et elle y croit en fait. C'est-à-dire que là, elle a un sourire, on voit qu'elle y croit, et lui, il sait qu'elle viendra jamais, et que de toute façon, c'est terminé, il va mourir bientôt. Et c'est d'autant plus terrible que, en fait, il y a ce moment, en fait, où après qu'il a dit ça, il se rend compte qu'il peut plus rester, et il va partir, ouais. Et il va pas leur dire parce que c'est trop tard, et en fait, encore une fois, il a merdé, c'est-à-dire que ça a pas fait le bien qu'il a cru que ça aurait pu faire, quoi.
C'est absolument pas sincère, parce que je pense qu'il l'annonce, parce qu'il sait très bien qu'il... Dans un autre cas, s'il devait pas mourir peut-être bientôt, il aurait jamais pu faire ça.
Non, il l'aurait pas fait, ça fait 12 ans, et tout le monde le dit d'ailleurs, c'est-à-dire que ça fait 12 ans que t'es pas venu, et là, tout d'un coup, tu t'es dit, ah oui, ça y est, tiens... C'est vrai qu'il me manque, c'est vrai que je les aime.
D'ailleurs, en parlant de la scène finale, c'est ma seconde scène où j'ai chialé comme un bébé, toute fin. Mais alors c'est marrant que t'aies dit ça pour ta scène, j'imagine, préférée, celle de la mère, parce que c'est ce que je pensais juste après avoir vu la scène de Vincent Cassel-Jeune et Gaspard Ulliel-Jeune, et pareil pour la scène finale, c'est que j'aurais voulu juste rembobiner pour juste revoir ces scènes-là, en fait, tu vois. C'est à ce point aussi que je trouve que peut-être, voilà, je parlais du film inégal, c'est tellement fort par rapport au reste que t'as juste envie de mettre ça, ce film, pour ces scènes-là, en fait. Et j'aimerais juste parler de la scène finale. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a compris tous qu'il a dit la vérité à son frère? Il n'y a que moi qui ai compris ça.
Qu'il a dit la vérité à son frère à quel moment?
Pour moi, il a dit la vérité à son frère, c'est-à-dire qu'il était venu pour mourir, quand ils sont revenus, en fait, de leur petite escapade de prendre une clope. Parce que j'ai trouvé que tout le comportement de Vincent Cassel, de vouloir absolument qu'ils repartent tout de suite, c'était une façon de couper court à la possibilité qu'ils puissent leur dire à elle. Ou alors c'est totalement moi qui me suis fait mon film.
Je suis pas sûr parce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que c'est surtout suite à cette dispute où en fait il se rend compte que il veut pas que son frère soit là, ouais. Parce que Il a un complexe d'infériorité sévère, Vincent Cassel. C'est pour ça qu'il est obligé d'oppresser sa femme, qu'il a toujours ce truc-là, même par rapport à son frère, et qu'il faut qu'il se casse. J'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui a compris ce qui se passait, c'est Marion Cotillard.
Oui, bah c'est quasiment dit dans le geste quand.
Ouais. D'ailleurs, il y a un moment, un moment où elle le détourne, mais en fait, elle le surprend dans ses pensées, en fait, dans la pièce où il y a. Dans le débarras où il y a toutes ces affaires de quand il était jeune, et en fait elle lui dit qu'il faut retourner à table parce qu'il va y avoir le dessert, et là elle s'arrête, elle lui dit combien de temps, et là il y a un long silence, et il y a Gaspard Dulliel qui se dit qu'elle a compris qu'il allait mourir, et mais là il lui dit mais combien de temps quoi, et là elle part sur complètement autre chose, mais à la fin il y a ce regard qui veut dire vraiment en fait pourquoi tu l'as pas dit, et là il y a Gaspard Dulliel qui la regarde et qui lui dit chut.
Ouais, mais même, je vais vous dire, d'indice en indice, vous pouvez remonter au tout début du film, parce que justement, on parlait, tu sais, des fameux deux gros plans qu'il y avait sur ces deux personnages qui ne faisaient que se regarder avec un silence.
Oui.
Et en fait, pour moi, là, elle a compris. Parce que tu sais, elle lui souriait au début, et tu voyais très subtilement son sourire s'enlever, comme pour annoncer vraiment qu'elle comprenait qu'il y avait quelque chose de grave. Et pour moi, c'est le personnage qui a capté qu'en fait... dès le début, alors qu'elle ne connaît pas cette personne, elle a compris pourquoi.
Mais il y a quelque chose de beau sur ce qui fait du personnage de Marion Cotillard par la mise en scène, c'est-à-dire que c'est vraiment le personnage ingrat quoi de la scène, c'est-à-dire comme on l'a dit déjà, comme tu l'as dit, elle arrête pas de bégayer, elle sait pas s'exprimer, etc. Et il lui donne quelque chose par la mise en scène, c'est-à-dire que c'est celle quand même qui elle dit pas, mais elle comprend. Ouais. Elle comprend ce qui se passe. Elle est ouverte à ce qui se passe autour. Et elle lui donne une dimension qui existe peut-être pas dans le texte, hein, d'ailleurs, de ce personnage comme ça, d'être.
Mais je voulais revenir à ce pourquoi je crois ça de Vincent Cassel à la fin. C'est que, tu sais, en fait, il s'est levé parce que c'était au moment où, en fait, Gaspard Huliel faisait le forcing sur un week-end. Tout le monde peut survivre un week-end, tu sais, pour essayer de lui dire, toi, tu vas venir me voir. Et pour moi, le fait qu'il ait dégoupillé, c'est parce qu'en fait, il ne veut pas rentrer dans le mensonge, mais il préfère être dans le non-dit, comme son personnage est, en fait. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à ça, parce que pour moi, c'est, il lui a dit quand ils étaient en train de revenir, je ne sais pas, dans la voiture. Et en fait, parce que sinon, j'avoue que j'arrive pas trop à expliquer son comportement de vouloir absolument l'emmener tout de suite à l'aéroport, et je sais pas pourquoi, mais moi ça s'inscrivait bien dans le fait de ne pas laisser sa chance à Gaspard Huliel de décevoir encore une fois sa sœur et sa mère, en leur disant que là par contre il allait vraiment partir pour de bon, tu vois. Et voilà, en gros, reste sur ça, et c'est pareil, et c'est pour moi c'est aussi la raison pour laquelle il commençait à pleurer, parce qu'en fait, il se devait d'être dans la position du gars qui prenait le méchant rôle, c'est-à-dire d'extirper Gaspard Huliel de la famille, alors que, quelque part, il fait ça pour elle. Moi, j'ai vraiment totalement vécu ça comme ça, mais je ne sais pas si c'est totalement... Enfin, je ne sais pas. Voilà. C'était ma façon de voir cette dernière scène. Ça vous semble nul. Ok, très bien, Jérôme.
Non, en fait, là où je te rejoins, c'est quand tu, mais c'est juste que je dirais pas qu'il fait ça pour sa famille. Je pense qu'il est dans la scène qu'il a en particulier avec son frère, il lui fait comprendre qu'il est pas dupe de son jeu et de ses belles paroles, hein, de sa manière de mettre en scène ses paroles. Donc je pense qu'il est pas dupe quand son frère annonce que sa sœur aura le droit de le voir avec même lui. Donc je pense qu'il sait que ce n'est pas vrai, et de deux, je pense que c'est quelqu'un qui aime énormément son frère et qui sait que son frère veut partir et qu'il est temps, et que effectivement il le fait de la manière dont il le sait dans son rôle, c'est-à-dire du méchant, qu'il le fait de manière agressive, mais quelque part il ne fait que répondre à l'envie et du personnage principal, quoi, de Louis, de partir et de se tirer de cette maison. Parce que dans tout le film, on voit quand même quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de s'enfuir, et qui est pris au piège. Moi, le bémol d'ailleurs que j'ai sur cette fin, moi j'aime pas trop la fin du film en fait.
Ouais,
c'est la fin qui m'a le plus gênée.
L'oiseau.
Il y a un oiseau en fait, le coucou. Ouais, donc bon, le film commence sur un coucou, donc on est à ce côté de l'heure, hein, qui revient très très souvent. Un repas de famille, de toute façon, c'est un programme qui a annoncé, hein, entrée, plat, dessert, la mère le rappelle. Et à la fin, donc, on a ce coucou, et le coucou sort, et c'est un espèce d'oiseau de synthèse, comme ça, qui se prend tous les murs et qui meurt, en fait. Voilà. Je sais pas, voilà, moi je suis resté du coup sur un, j'étais un peu
ouais,
dubitatif.
C'est un symbole un peu lourd en fait sur.
Oui, je sais, je l'ai pas vu arriver ce truc. Effectivement, je me suis vraiment demandé pourquoi il avait eu, voilà.
Il avait mis ça aussi. Alors bon, pendant qu'on y est, je vais continuer dans ma singularité de genre. Est-ce qu'il avait un film qu'on n'a pas vu? Mais ça, c'est ma façon de mettre des métaphores partout, un peu trop. J'aime bien avoir six lectures du même film. C'est la scène finale aussi. Alors je sais pas, ça va peut-être un peu trop loin, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à une sorte de scène d'euthanasie en fait, où c'est Vincent Cassel là aussi qui prendrait en charge le fait de se dire non mais c'est pour son bien, je vais l'accompagner moi-même vers la lumière, vers la mort quoi, vers la sortie. Même si vous m'en voulez à moi, je prends cette responsabilité pour vous, tu vois, parce que je sais pas, j'ai vu aussi.
Je sais pas, parce qu'il est pas, il est pas non plus si bienveillant que ça. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a vraiment un trop-plein pour le personnage de Cassel aussi. C'est-à-dire que il dit en permanence, en fait, quoi qu'il fasse, vous m'en voudrez à moi.
Ouais.
Quoi qu'il choisisse de faire, vous m'en voudrez à moi.
Moi, j'avais vu ça comme effectivement, le fait qu'il déjà il en puisse plus, mais en plus là, comme par hasard, c'était la seule fois probablement du film où il était sympa. Mais peut-être que c'est moi, j'ai voulu revoir une connexion familiale et fraternelle entre les deux que peut-être vous peut-être qu'il n'était pas, et j'ai voulu être l'optimiste pour ce truc. Même si au final, ça n'a pas changé grand-chose puisque il s'en va. Là aussi, c'est une métaphore qu'on pourrait toujours appliquer. Il s'en va tout seul, forcément. Voilà.
Oui. Ouais, ouais. Voilà,
superbe fin du.
Mais non, mais après aussi, je voulais rajouter. En fait, je voulais rajouter quelque chose. En fait, sur mon rapport avec le cinéma de Dolan, donc j'ai suivi depuis le début, j'ai tout vu au Cinoche. Et donc son premier film, J'ai tué ma mère, j'avais trouvé ça intéressant, mais pas encore forcément très très. Très très abouti. Ensuite, il y a eu Les Amours Imaginaires que j'ai pas du tout aimé. Donc, je savais pas encore quoi penser de lui. Et puis après est venu Lawrence Anyways, et là, il m'a convaincu à vie en fait que j'allais le suivre. Et là, en fait, il enchaîne pour moi avec trois films parfaits. En fait, il y a Lawrence Anyways, Tom à la ferme et Mommy, qui sont tous des films que je trouve bouleversants, qui m'ont fait chier. Donc, j'avais des attentes extrêmement hautes en fait pour ce film. Et les petits trucs que j'ai à lui reprocher ici, c'est que j'ai l'impression qu'il revient un petit peu à ces démons des amours imaginaires. C'est-à-dire que ce que je reprochais beaucoup aux amours imaginaires, c'est qu'on avait quelques scènes de dialogue intimiste entre les personnages très très bien foutus, qui étaient entrecoupées de très très longs clips musicaux.
Oui.
Que j'aimais pas énormément et où je voyais surtout le Dolan qui essaie de faire de l'esbrouf, etc., etc. Et ici, dans ce film, il y a des moments comme ça que je sens un petit peu revenir. Il y a cette fin avec l'oiseau. Que j'ai trouvé un peu trop. Ouais. Et il y a cette scène aussi de souvenir où il va dans le débarras et où il se souvient de son premier amant, où là je vois un clip qui arrive et j'ai l'impression d'une scène un petit peu rajoutée au scotch. Comme ça,
elle est complètement rajoutée. Hein,
elle est complètement rajoutée, mais je le sens trop. Et c'est-à-dire que ce rapport qu'il peut avoir avec la musique.
Alors, même, c'est une scène. Ça me fait rire que tu soulignes cette scène, mais c'est. Mais vas-y, on termine, pardon.
Mais en fait,
parce qu'il y a un hommage à Titanic.
En fait, ce que je voulais dire, c'est que ces moments musicaux qui sont importants pour lui, dans un film comme Mommy, je les trouvais tous réussis. C'est-à-dire que ce soit la scène de Céline Dion, de playback sur Céline Dion, ou la scène au conditionnel sur ce qui se passerait si cet enfant grandissait et se mariait et avait une vie entre guillemets normale. C'est des moments qui me prennent parce que j'ai l'impression qu'ils sont complètement justifiés par les personnages et par l'histoire. Et ici, j'ai un petit peu plus l'impression de trucs de je vais rajouter ça pour faire mon intéressant un petit peu, tu vois, où il a envie de faire un petit peu d'esbrouf autour de ça.
Non, pour moi, je l'ai pas lu. Mais
alors, c'est marrant parce que je vais juste mettre en rapport Dolan, ce film, son dernier film, avec Refn et Only God Forgives et Drive. Parce qu'en fait, ce que tu lui reproches là, c'est ce que moi je reproche à Refn dans Only God Forgives, de vouloir faire de l'esbrouf suite à son hyper succès. Et forcément, on l'attendait tous justement pour le film post-Drive, tout comme tout le monde l'attendait un petit peu pour son film post-Mommy, qui a été vraiment qui a ravagé les critiques et le public, tu vois. Et Et moi, je trouve que pourtant, non, je pense qu'il a plutôt bien surfé sur ça, en justement allant autre part où on pouvait l'attendre, en fait. C'est peut-être un peu trop d'un autre film, peut-être, encore une fois, de 2h30, avec encore plus d'esthétique et peut-être un peu trop lourd. Et là, il m'a surpris. Donc, c'est vrai que... Mais je pense qu'aussi ça doit être assez difficile pour un réalisateur de faire le film d'après, le fameux film d'après le gros succès.
Moi je pense que ça lui fait pas du tout peur. Moi j'ai une théorie sur Xavier Dolan, c'est qu'il s'en fiche complètement de ce qu'on peut penser ou pas penser de lui. C'est pas du tout un.
J'ai son zéro aussi. On va l'appeler.
Moi c'est ma théorie. Bon, moi contrairement à Arnaud, moi j'ai accroché à son travail dès son premier film et c'est peut-être celui que j'ai le moins saisi, mais du coup que j'ai très envie de revoir maintenant. C'est Lawrence Anyways, moi qui m'a laissé complètement. Voilà. Mais j'ai l'impression que ce film-là, pour moi, j'ai Xavier Dolan qui me fait un autoportrait, quoi. Et avec cette pièce, et peut-être comme Tom à la ferme, finalement, c'est ces films qui fait. Parce que Xavier Dolan ne se repose pas, hein, faut le dire. Le week-end, il
dit toujours qu'il va prendre un hiatus entre les
voilà,
films.
Il avait dit après Mommy, tout ça, puis non, finalement, quoi, ce film-là, il était quand même jury au Festival de Cannes. Le tournage a commencé le lendemain, donc il faisait les répétitions pendant Cannes. Ouais, c'est dire que c'est un oui voilà il répétait avec Vincent Cassel à Cannes hein, donc non ouais, quand on dit que c'est non c'est pas c'est quelqu'un je pense qui n'a jamais pris de vacances depuis qu'il a fait son premier film donc sa manière à lui de faire des respirations non mais il a pas il n'a même pas 30 ans sa manière à lui de prendre des respirations et de s'éloigner c'est de faire ce film donc moi je le vois plutôt comme ça c'est pas une parenthèse mais c'est plutôt une oui c'est je le mettrais pas du tout sur le même niveau que Mommy sur le c'est une chose qui est différente je vois des essais pour je suis sûre qu'on va retrouver plein de choses de ce film dans d'autres films il y a un lien qui va être étrange je pense que c'est un film qu'on arrivera aussi à lire très tard il va falloir peut-être voir 3-4 films encore peut-être, de lui et peut-être qu'il y a des choses qui nous feront écho à ce moment-là.
Ouais, mais après il y a quelque chose que je voulais aussi rajouter, c'est-à-dire l'année dernière j'avais assisté à une masterclass de Xavier Dolan au Forum des Images qui était très très intéressante. Et il y a une question à un moment donné qui lui a été posée, et c'était sur est-ce qu'il y a des choses qu'il aimait pas filmer. Et là, il a répondu oui, j'aime pas filmer les cuisines, c'est moche et c'est difficile d'y placer la caméra.
Là, dans Mommy,
et ça m'a quand même fait énormément marrer parce que j'ai l'impression que la moitié des lieux qu'il filme, ce sont des cuisines en fait, Xavier Dolan. Non, mais c'est.
Il y a bien le challenge peut-être. Hein,
et en, non, mais
en citer quelques-unes.
En fait, je crois que ça résume bien son. Parce que finalement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un cinéaste de cuisine, quoi, vraiment. C'est-à-dire que et pourquoi il filme la cuisine ? Et là, je vais faire un petit peu mon Bergala, c'est-à-dire il y a deux types de cinéastes. Il y a le cinéaste de la cuisine et le cinéaste du salon.
Alors Bergala disait il y a le cinéaste de la jupe et le cinéaste du short pour rappeler.
Non mais c'est ça, c'est-à-dire que au salon, c'est là tu vois où on met un masque, c'est un peu le lieu de représentation sociale et à la cuisine on se détend, c'est-à-dire c'est là en fait où il se passe des choses. Mais on se rappelle tous de la scène de Bobby qui a fait chialer tout le monde sur donc le fameux playback sur Céline Dion où c'est la première fois que la voisine qui est un personnage très renfermé, elle se lâche un peu en chantant Céline quoi. Et c'est ce qui se passe dans les cuisines, c'est là où ça se délite, c'est là où on peut parler, c'est là où on fait les choses. L'autre peut être très intéressant hein, si on prend Satyajit Ray qui filme beaucoup les salons justement, mais où justement ça va être un autre cinéma qui parle de la représentation, qui parle de tu vois de ce. Et ici ce qu'il aime c'est finalement aller chercher dans la cuisine les petites vérités qu'il y a derrière. Et en fait je vais dire d'une manière générale, peut-être qu'il aime pas filmer ça, mais moi le Xavier Dolan que j'aime bien c'est le Xavier Dolan de la cuisine, celui qui révèle des choses, qui va filmer les personnages etc. Et en fait quand il va au salon et qu'il va faire ses clips et qui va faire ces trucs comme ça et qui essaie d'impressionner et tout ça, je l'aime un petit peu moins en fait.
Non, c'est mais je suis complètement d'accord en fait.
Ouais, c'est bien, ouais, totalement. On signe.
Il y a aussi un truc à faire avec les couloirs, peut-être pour la prochaine fois. Il y a aussi un cinéaste de couloirs.
Et bon, bah, espérons qu'il va réaliser la prochaine saison de Top Chef.
J'aimerais beaucoup, et vraiment, mais je suis intéressée. Hein,
mais ça serait tellement beau sur les personnages qui s'énervent sur la cuisine. Quoi ? Quoi, les poulets ?
Je pense que c'est vraiment dans la lignée de la théorie. Avec Arnaud, on aimerait beaucoup que Jean-Luc Godard filme Roland Garros.
Ouais.
C'est un de nos désirs chers pour... voilà, si quelqu'un nous entend, c'est aussi une bouteille à la D'accord. mer. Il aimerait beaucoup.
Oui, mais,
aussi. Et Xavier Dolan voudrais... sur Top Chef aussi. Voilà.
C'est ouais, top chef. Mais est-ce que tu voudrais que Godard il suive là-bas ou il fasse juste des chants
contre il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut.
Carte blanche.
Il fait ce qu'il veut. Il filme son chien s'il veut. Hein.
Et voilà, il
c'est ce qu'il ferait sans doute.
Lui, chez lui en train de regarder Roland Garros, on ne sait pas. Quoi. C'est... Mais du coup...
Non, parce qu'il faut quand même le dire que Jean-Luc Godard, c'est le plus gros troll du XXe siècle. Mais c'est le roi des trolls, enfin, je veux dire.
C'est sûr, parce qu'il y a Verhoeven aussi, on a parlé.
Tipeum, c'est presque un amateur à côté, c'est-à-dire que Godard, c'est pas que dans ses films, c'est-à-dire sa vie est un troll géant, quoi. Et,
oui, oui,
et voir des interviews de Godard à la télévision sur YouTube, mais c'est mieux que n'importe quelle chaîne comique, quoi, c'est formidable. C'est,
mais moi, ma théorie, c'est que Jean-Claude Van Damme s'en est inspiré pour sa vie post.
Moi, je pense qu'il va falloir faire un podcast spécial paranoïa du cinéma. Hein, que...
Bienvenue dans les podcasts sur les théories du cinéma.
On ment, tout est complot.
Moi, je pense que c'est pas mal pour terminer le podcast. À moins que vous ayez envie de dire quelque chose de plus. Mais j'ai beaucoup aimé parler avec vous, sans déconner, parce qu'en fait, je... Tu sais, je peux plus réfléchir au final sur ce film et peut-être que dans 6 mois, j'aurai évalué cette note finalement.
Non, mais après, encore une fois, j'ai notamment dans cette deuxième partie, j'ai dit des trucs peut-être un peu négatifs et ça enlève pas ma cote d'amour pour Xavier Dolan que j'aime beaucoup. Voilà.
écoutez, merci beaucoup à tous les deux et à une prochaine fois. Hein, je garde toujours en tête le double feature Roadhouse Showgirls 2.
Ah non, mais là, c'est...
pardon, excuse-moi, j'ai dit ça parce que j'ai vu la bande-annonce de Showgirls 2, je sais pas si vous l'avez vue.
Mais bien sûr.
C'est horrible, c'est tourné en DV, genre, c'est horrible. Genre, si on voit ça, il faut vraiment qu'on
mange beaucoup d'M&M's. Non, moi, je pense que c'est... Non, c'est un très bon double à faire un 1er janvier, voilà. Il faut être en crise de foi, il faut que tout soit redescendu, il faut que... Je vois pas d'autre date, en fait, pour voir ça, à part le 15 août, on a à peu près la même chose.
Mais ouais, très bien, je plus sois. On fera ça avec encore, tu sais, notre cône argenté sur la tête.
On garde la tenue du réveillon.
Des lunettes 2017, voilà, très bien.
Bon, paillettes, hein.
Encore une fois, merci beaucoup. Et à la prochaine, alors à très vite.
Ciao.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.